Non, vous n'allez pas appeler la police. Et arrêtez de vous exciter. Ce n'est pas bon pour l'opération. Elle recule et court vers la sortie de l'appartement. Il lui court après. Il plonge sur ses jambes, l'attrape des deux mains, la fait tomber la tête la première et se couche sur elle. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Il lui dit, j'ai jamais vu une malade avoir aussi peur d'une opération. Vous êtes ridicule. Je suis le meilleur chirurgien du monde. Aucun opéré n'a eu à se plaindre après. Elle lui crie, lâchez-moi! Au secours! Au secours! Elle tape de ses mains sur le sol, essaye de sortir de son étreinte en gigotant de tout son corps, mais la maintient bien. Il sort de sa poche un rouleau de PVC. Il tire les cheveux pour lui soulever la tête. Avec moi, pas la peine d'anesthésie. Il enroule autour de la tête, la bouche, le PVC. Ouf, du calme. Puis, il lui prend des deux mains, il met au dos et lui attache avec du PVC. Elle a beau gigoter, rien n'y fait. Il est trop fort, plus fort qu'elle. Ensuite, c'est aux jambes. Là, elle est passive. Il se soulève. Va au salon. Débarrasse une table d'un geste de la main. Va prendre sa sacoche. Met une chaise à côté de la table. Sort de la sacoche une combinaison. La met. Met ses gants. Puis, il va chercher la femme qui est paralysée, horrifiée. Il la prend, la met sur ses épaules, la pose sur la table, sur le devant, la range bien.
Elle a les mains dans le dos, les pieds attachés, ne peut parler. Elle essaie de gigoter, mais n'y arrive pas.
Il sort de sa sacoche une croix en cuir. Il entoure la femme de la courroie et fait le tour de la tente pour éviter qu'elle ne gigote.
Puis, avec un ciseau, il découpe le corsage et un soutien-gorge. Et soutien-gorge. C'est costaud. Ensuite, il prend un feutre pour faire une grande croix sur la poitrine.
Commençons.
Il prend un couteau de cuisine et commence la découpe. Enfonce pour faire un trou dans le sang. La femme est rouge de souffrance. Après le trou, il tire la peau pour enfoncer le couteau, à le faire avancer. Et après, une heure, il a réussi à ouvrir le sang de partout, sur le corps, etc. Il casse la cage thoracique avec une scie et un burin. Etc, etc. Et le corps est là.
Comme c'est mal fait, je vais t'arranger tout ça.
Il soulève le corps, coupe les vaisseaux. Met le corps à terre, qui ne tarde pas à se vider de son sang.
Mon Dieu, j'ai oublié un corps de rechange. Ne bouge pas, je vais t'en chercher un.
Il quitte ses gants. Sa combinaison et sort de l'appartement en vitesse. Ne reviendra plus. Il était trop occupé à s'occuper d'autres personnes et à oublier Hélène. Le lendemain, c'est la femme de ménage qui a trouvé son corps. Personne n'y comprend rien.
moi je pars à la rue. Oh là là, t'as vu, c'est pas très bien.
Un jour, Galien est à Lyon. Il rencontre Lucien par hasard dans un café. Il est assis seul à une table. Bonjour Lucien. Bonjour Galien.
De toute façon, moi,
tu veux m'asseoir? Oui, bien sûr. Et il s'assoit. Qu'est-ce que tu bois? Lucien lui dit, un jus d'orange. Moi, je prendrais la même chose. Il fait signe au garçon. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que tu deviens?
Madame?
Lucien lui dit, toujours la même chose. J'ai présenté un nouveau produit au cours d'une soirée. Ça a bien marché. Galien lui demande. Il y avait du monde? Oui, assez. Ils ont goûté à emporter des échantillons. Tiens, au cours de la soirée, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme qui a été opérée du corps. On lui a mis un autre.
C'est pas que j'ai mal dormi, c'est pas ça.
L'espérance étrange. Galien lui dit. Bientôt tout ça sera fini.
Oh, s'il vous plaît.
Le patient lui-même refera son nouveau corps.
Et pour moi, croque-monsieur.
On fera un moule de son corps ou autre organe, le moule en plastique.
On
prélèvera
du
patient un échantillon de sa peau et on mettra sur le moule, à l'aide des batteries de l'ADN, la peau s'agrandira et prendra la forme du moule. Une fois qu'elle aura pris sa forme, le plastique se désintégrera et il ne restera que la peau. Ce qui fait que le nouvel organe que l'on mettra au patient ne provoquera aucun rejet puisqu'il sera fait de la peau du patient. Lucien lui dit, oui, ce serait vraiment très bien. Mais en attendant, en plus de rejet, chose étrange, la patiente ressent sa personnalité changer. Elle n'a plus les mêmes goûts. Son caractère change aussi. Cette jeune femme que j'ai rencontrée a un corps d'un jeune homme. Et elle croit devenir un jeune homme. Galien lui dit, c'est tout à fait impossible. Le corps n'est qu'un muscle. Lucien lui dit, pourtant, elle ressent vraiment des changements. En admettant que son corps peut lui faire prendre des goûts de son ancien propriétaire, comment ça se pourrait? Galien lui dit, je te dis que c'est impossible.
Madame,
tu fais comme si ça l'était, comme un jeu. Galien lui dit, je veux bien essayer, mais c'est du au-delà du réel. Bon, voyons. Il boit une gorgée et dit, bon, allons-y. C'est ridicule, mais il faut jouer le jeu. Il y a dans notre corps, tout notre corps, dans chaque cellule de tous les organes, une mémoire qui fait que lorsqu'elle ressent, reçoit des messages du cerveau, réagit d'une certaine façon et permet sa façon de réagir mécaniquement. Il y a des réactions dues aux instincts de la sensibilité sentimentale. Suivant où se trouve la personne, le caractère de la personne présente, elle va réagir de telle sorte qu'elle extériorise ce que ressent sentimentalement la personne, tristesse, joie, plaisir, colère, peur, etc. Etc. Cette mémoire cellulaire, c'est vraiment réagir suivant l'état d'esprit de la personne. Et comme chaque personne est particulière, il y a des nuances entre les cellules des gens. Et lorsque l'on transplante un organe dans un autre, le corps étranger réagit comme il a appris dans son ancien corps et avec son ancien cerveau. Ce qui donne au nouveau des sensations nouvelles et des goûts peuvent changer. Exemple, une personne qui est triste, le cerveau envoie l'information aux cellules du muscle du bras pour faire un geste. L'information sera lue par la cellule du bras avec cette information triste et le geste sera d'une façon triste qui révélera la tristesse. On ne fait pas le même geste d'une façon joyeuse que d'une façon triste. Si la personne est joyeuse ou triste. Cela est une idée comme ça, trouvée de suite.
Au revoir François, merci.
C'est peut-être la solution qui explique la transformation du caractère du transplanté, leur donne de nouveaux goûts et sensations. Lorsqu'une personne a l'habitude de s'alimenter, d'alimenter son corps de certains aliments, la cellule en a pris l'habitude et en demande même chez le nouveau receveur, car c'est presque vital pour elle de recevoir certains aliments, chocolat, viande, boisson, etc. Elles ne savent pas s'alimenter avec autre chose que ce que l'autre corps lui a appris à se nourrir.
Et
il lui en faut.
Madame, s'il vous plaît.
Enfin, voilà ce que je crois que pourrait être le changement de personnalité du recevoir. Mais j'y crois pas vraiment. Lucien lui dit, et si tu avais trouvé la solution, Galien lui dit, alors ceci compliquerait encore plus la science. Mais bientôt que je te l'ai dit, ceci sera fini. Lucien lui dit, à moins que les transplantés ressentent autre chose. Galien lui dit, là, il faut tout abandonner et leur laisser avec leurs anciens organes. Ils nous embêtent. Le cerveau humain est trop complexe et s'invente des histoires pour un oui, pour un non. C'est lui que l'on devrait transformer. Tiens, voilà un sujet pour ton émission de radio. Lucien lui dit, je ne fais plus d'émission. C'est Pascal qui les fait. Moi, j'ai plus le temps. Et il va bien ? Oui, très bien. Et ta mère est toujours en maison. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Les médecins refusent de la faire sortir. Galien lui dit, fais-la examiner par d'autres médecins qui disent si elle peut sortir. Lucien lui dit, la clinique refuserait sûrement. Galien lui dit, pas un avocat. Tu as raison, c'est ce que je vais faire. Galien regarde sa montre et lui dit, il faut que je te quitte. Au revoir, à bientôt. Il se lève et sort. Géraud Briquin est dans le bureau de Danfort. Il lui dit, nous allons lancer un nouveau programme.
Danfort lui demande, lequel ?
Nous allons enlever la mémoire ADN dans le cerveau et mettre une nouvelle mémoire, préparée par nous.
Danfort lui demande, pourquoi faire ?
Pour créer des hommes nouveaux. Programmé par nous pour faire des robots humains avec ces mémoires que nous leur donnerons, ils pourront faire ce que nous voudrons. Ils auront le caractère, le goût, les capacités que nous voudrons, et même ils auront leur limite de vie pour éviter la retraite, 65 ans maximum de vie. Ils seront programmés pour manger ceci et cela, pour dormir un certain temps dehors, pour obéir, etc., etc. Et même peut-être immunisés de certaines maladies, pour faire des économies à la sécurité sociale. Et leurs progéniteurs auront les mêmes capacités qu'eux, parce que ce sera dans leur ADN. Ce sera programmé dans leur ADN. Voilà. Danfort lui dit, et quelle personne ou cobaye allez-vous prendre ? Il lui répond, nous allons commencer, pour éviter les ennuis, par les malades, mentaux, les jeunes, les enfants, les jeunes des cités. Quelques billets aux parents et la chose sera faite. Malheureusement, nous ne pourrons pas nous servir des cadavres. Mais les cadavres nous serviront à prendre l'ADN dont nous avons besoin. Danfort lui dit.
Faites attention avec les corps. La police surveille les cimetières.
Ricain lui dit. Ne vous en faites pas. La police est avec nous. Elle en a assez des délinquants.
Danfort soupire et lui dit. Pourquoi tous ces nouveaux programmes? Les autres ne vous suffisent pas?
Il lui répond. Le but de tout ça, c'est de créer de nouvelles races d'hommes, des robots humains, de nouveaux esclaves. De tout temps, les hommes ont eu besoin d'autres hommes à leur service, et ça continuera toujours, surtout maintenant, avec l'exploitation des nouvelles planètes. Il vaut mieux qu'elles soient faites par des hommes faits pour ça, résistants et tout, surtout obéissants aux doigts et à l'œil, et pas cher. Égal homme-robot.
Un jour, le téléphone sonne dans le bureau de Galien. Il prend l'appareil.
Allô? Oui.
Monsieur, il y a une dame qui désire vous voir.
Galien demande. Qui est-ce?
C'est madame Annabelle Kral.
Et que veut-elle?
Elle veut vous demander un service.
Galien soupire.
Bien, faites-la entrer.
On a frappé à la porte. Entrez.
Entre une dame grande, mince, dans les 40 ans, blonde, cheveux à chignon, visage osseux, de grands yeux bleus, habillée d'un tailleur blanc, et d'une très grande élégance, pas due à ses habits, mais à tout son être. Galien se lève.
Madame, venez vous asseoir.
Et elle va s'asseoir devant le bureau.
Galien se rassoit.
Je vous écoute, madame.
Elle sourit et lui dit.
Voilà, monsieur. J'ai appris c'est que vous faisiez des expériences scientifiques très intéressantes sur le cerveau humain. Et que vous êtes capable, c'est de guérir certaines maladies.
Galien lui répond.
C'est pas moi, mais mes chercheurs. Et comme vous l'avez dit, ce ne sont que des recherches pour le moment.
Elle lui demande.
Mais vous êtes capable, c'est de changer le caractère d'un être humain, de lui faire perdre la mémoire.
Galien lui dit,
cela est plus ou moins possible, mais nous travaillons surtout sur l'ADN, pas sur le caractère humain proprement dit. Mais l'on peut, si l'on veut, faire oublier, perdre la mémoire à un sujet en lui en mettant une autre. Mais pourquoi me demandez-vous tout ça?
Elle lui dit,
j'ai un fils, il est très perturbé et risque de le rester toujours. J'ai pensé que s'il perdait la mémoire, il pourrait être mieux et vivre normalement.
Galien lui demande, qu'a votre fils? La mort de son père l'a beaucoup perturbé.
Caliane lui dit, c'est tout à fait normal et ceci passera.
Elle lui dit, oui, mais avec lui c'est un peu plus profond. Il a eu des rapports difficiles avec son père et se sont plus ou moins disputés. Il se sent coupable de sa mort.
Ce qui est faux. Caliane lui demande, quel âge a votre fils?
14 ans. Il en avait 13 à la mort de son père. Il en avait 13 à la mort de son père.
Caliane lui dit, il était en début d'adolescence, c'est normal qu'il se soit disputé avec son père et qu'il se sente coupable, qu'il en ait des remords. Bon, cela passera avec le temps.
Elle lui dit, cela fait presque un an qu'il est complètement frustré et ne parle pas, ne veut voir personne et ne supporte aucun contact.
Caliane lui dit, présentez-le à un psychologue.
C'est déjà fait. Le médecin dit des choses folles, insensées au sujet de notre famille. Mais moi, je crois que l'on pourrait lui enlever sa mémoire et qu'il, s'il repartait à zéro, serait mieux pour lui.
Caliane lui dit, si l'on fait ça, ce serait terrible. Il n'y aurait plus de retour en arrière. L'opération est définitive. Il n'aura plus de souvenirs. Et on ne sait pas non plus comment il va réagir. Peut-être deviendra-t-il une légume ou un fou furieux.
Elle lui dit, c'est mieux que ce qu'il est maintenant.
Caliane lui dit, mais maintenant, il souffre peut-être, mais il est lui et c'est l'essentiel. Il a une personnalité. Vous comprenez, malgré sa souffrance, il est lui. Tandis qu'après son opération, il ne sera plus rien.
Elle lui dit, je lui réapprendrai à être lui-même.
Caliane lui dit, est-ce que vous savez qui il est? Vous croyez le savoir parce que vous le voulez comme ça? Mais est-il comme vous le voulez? Ou voulez-vous en faire ce que vous voulez qu'il soit?
Elle lui dit irritée, je veux qu'il soit heureux.
Caliane lui demande, madame, si peu qu'il soit heureux, il doit garder sa mémoire.
Elle lui répond, il ne peut être heureux en souffrant. Sa mémoire doit lui être enlevée.
Caliane lui dit, je ne peux pas, je ne suis pas médecin. Et nos recherches ne sont qu'expérimentales. Je n'ai pas le droit de le faire.
Elle lui dit, je sais. Je vais tout faire pour le faire. Et je vous le demande.
Il lui répond, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire une chose comme ça, décider comme ça, sans voir la personne.
Elle lui dit, eh bien, venez le voir.
Il lui dit, oui, je viendrai voir cet enfant dont la mère veut lui enlever la mémoire.
Elle lui dit, comme cela, vous verrez que je ne suis pas une mauvaise mère.
Elle sort de son sac une carte de visite.
Voici mon adresse. Venez demain après-midi à 15h.
Il regarde son agenda. Et lui dit, je viendrai, madame.
Elle se lève, lui aussi. Au revoir, monsieur.
Au revoir, madame.
Elle sort de la pièce.
Une fois qu'elle est partie, il se dit, encore une folle qui croit que la science peut tout résoudre. Son fils n'a sûrement rien, à part sa mère hystérique qui veut que le monde soit à ses pieds.
Thank you.
Le lendemain, à 15h, il se fait mener par son chauffeur chez elle. Elle habite le quartier du Marais, un vieil hôtel particulier du 18e.
Sonne à la porte.
Un domestique lui a ouvert, un homme grand et sec.
Monsieur,
j'ai rendez-vous avec votre maîtresse. Je suis monsieur Galien Diap.
Oui, monsieur. Madame vous attend. Entrez.
Galien entre. Entrée de marbre, magnifique escalier de pierre et rampe. Le domestique le mène vers une porte.
Frappe à une porte et entre. En ressort.
Entrez, monsieur.
Galien entre. La pièce est un immense salon Louis XV qui a une magnifique cheminée et de grandes fenêtres qui donnent sur un parc. Elle est debout en robe rose.
Bonjour monsieur, merci d'être venu.
Venez vous asseoir. Elle lui montre une chaise. Il va s'y asseoir. Elle s'assoit sur celle qui est en face de la sienne.
Elle lui demande, vous désirez boire quelque chose? Il lui dit, oui, merci. Elle lui dit, j'allais prendre mon thé, cela vous va?
Oui, merci, moi aussi à cette heure j'en prends.
Elle appuie sur la sonnette électrique qui est sur la table.
On a frappé à la porte.
Entrez.
C'est la bonne, petite grosse.
Apportez le thé, s'il vous plaît.
Bien, madame. Et la bonne a refermé la porte.
Elle lui dit, comme vous pouvez le voir, mon fils vit dans un milieu confortable. Il ne lui manque rien.
Galien lui dit, j'en doute pas une minute. Mais quelquefois, les demeures cachent bien les misères de l'homme.
Nous avons tous notre croix.
Elle lui dit, vous parlez comme un prêtre maintenant. Il lui répond, je ne sais pas, mais je sais que la misère a plusieurs visages. Elle est plus visible chez les pauvres, mais elle peut être plus forte chez les riches.
On a frappé à la porte.
Entrez.
Entre la bonne.
Avec un plateau pour le thé qu'elle va déposer sur la table basse qui se trouve à leurs pieds.
Merci, je servirai.
Et la bonne s'en retourne.
Et elle fait le service.
Thé avec
du sucre, merci. Et elle le sert.
Il y a aussi de la confiture de groseille, du miel, du beurre, du pain grillé
et des petites madeleines. Après avoir bu une gorgée, Galien demande.
Quels étaient les rapports avec son père ?
Il lui dit, mais pourquoi me demandez-vous ça ? Il lui dit, parce que les rapports avec son père posent problème. Je veux savoir. Il lui répond, ils étaient comme père et fils. Ils s'entendaient bien. Il lui dit, oui, mais pourquoi cette brouille avant sa mort ? Elle lui dit, tout le monde se brouille, même les gens qui s'aiment le plus. Il lui répond, je suis tout à fait d'accord. Mais alors, comment était l'enfant avant la brouille ? Elle lui répond, c'est un enfant calme, bon élève, doux. Il lui demande, il a commencé à changer quand ?
Je ne sais pas, moi, si, depuis ma maladie, j'ai eu une très forte grippe. Et j'étais obligé de m'aliter quelques jours. Là, il a changé et s'est replié sur lui-même. Et que pensait votre mari de ce changement ?
Mon mari était un homme admirable. Il faisait tout pour son fils. Son fils était tout pour lui. Ils étaient toujours avec lui, s'occupaient constamment de lui. Il le soignait comme une mère. C'en était attendrissant. Marie était tellement heureux d'avoir un fils qu'il le pouponnait même. C'est lui, lorsqu'il était petit, qui le langeait, lavait. Il lui a tout appris. Ils étaient inséparables. J'en étais même un peu jalouse. Et un jour, votre père et votre fils se sont disputés. Vous ont-ils dit pourquoi ? Il lui dit, non.
Cette dispute a beaucoup touché mon mari et il ne voulait pas en parler. Et votre fils, lui, était trop nerveux pour...
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La deuxième époque de Violence et Crépuscule, Immami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.